Ed.
Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel.
Heureuse de vous retrouver aujourd'hui en cette magnifique journée qui annonce un printemps qui annonce l'été lui aussi. Bref, le temps chaud et beau s'en vient. Aujourd'hui, ce qui frappe, là, c'est vraiment le procès de Donald Trump, mais pas uniquement le procès de Donald Trump. Il y a évidemment cette offensive à Rafah que Israël a entamée et qui finalement, tout le monde espérait que ça n'arrive pas. Tout le monde espérait que ça ne, que, qu'Israël entende raison. Les États-Unis sont contre cette offensive, faut-il le rappeler. En fait, tout le monde est contre cette offensive. Tout le monde a demandé à Israël d'attendre, d'arrêter, de diminuer l'escalade. Mais rien à faire. Rien à faire. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherche à faire à Rafah, mais ça va certainement se traduire par la mort de plusieurs enfants, de plusieurs femmes, de plusieurs civils innocents. L'aide humanitaire a complètement été arrêtée aujourd'hui. Il n'y a pas d'aide humanitaire qui rentre à Gaza. Aucune. Alors, pendant que je suis en train de vous parler, il y a probablement des enfants qui sont en train de mourir, des femmes qui agonisent et du monde qui ont faim et soif, qu'on trimballe à gauche et à droite à coups de pluie, de missiles, de balles, de bombes. J'espère que votre journée va mieux que celle des Gazaouis. Bienvenue à Cube et bienvenue sur votre émission.
Vous avez vu un grand spectacle?
On en a un plus grand encore.
Luc Lavoie.
Écoute, j'ai tellement ri.
Yasmine Abdel-Fadel.
C'est une pièce d'anthologie.
La rencontre Lavoie Abdel-Fadel.
Cher Luc, as-tu suivi cette émission-là avec une porn star?
Oui.
Tu regardes ça, toi?
Oui. Ben, moi, ben, de quoi tu me parles, là? Je regarde
ben, des
quoi?
Porn stars?
Ben, j'ai déjà vu ça, oui.
T'as déjà vu ça?
Toi?
Non.
Jamais.
Jamais.
Même en regardant par-dessus l'épaule de quelqu'un.
Tout. Non, ben. Rien pour tout, mais maintenant, je suis obligée de me taper ça à cause de CNN puis à cause de Donald Trump.
Écoute, aujourd'hui, là, c'était dans le procès, un des procès les plus loufoques que j'ai vu de ma vie. Là, aujourd'hui, le témoin à charge, c'était Madame Stormy Daniels, de son vrai nom, Stephanie Clifford.
C'est moins sexy.
Ça fait moins sexy, en effet.
Stormy.
Elle a là raconté qu'il y avait un tournoi de golf, probablement sur un golf qui appartenait à Trump, là, mais ça, c'est pas mentionné. Sur un terrain de golf, et là, il y avait des commanditaires. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il y avait, là, mais il y avait des commanditaires. Puis la compagnie avec laquelle Stormy Daniels était sous contrat, c'est-à-dire une compagnie de production de porno, avait comme un trou réservé. Puis là, il y avait des filles aguichantes et tout.
Elle avait un trou? 18?
Oui, il fait 1 sur 18.
1 sur 18?
1 sur 18, elle, puis d'autres de son employeur. Donc, aguichantes et tout. Et là, Trump est allé la saluer. Et bon. Puis là... D'abord, il paraît que pendant son témoignage, je trouve ça tellement drôle, il paraît qu'elle est toute habillée en noir, parce que c'est pas télévisé, elle est toute habillée en noir, et certains attribuent ça à sa nervosité. Elle parle très fort, bah, bah, bah! Alors là, elle a détaillé la conversation. C'est parce que j'ai sauté une étape. Là. Après que le tournoi est fini, ouais. Là, il y a une espèce de banquet ou je sais pas trop quoi. Et puis, il y a un agent de sécurité qui arrive voir Stormy, Stephanie, puis il dit, « Monsieur Trump aimerait manger avec vous. Êtes-vous disponible? » Puis elle dit, « Oui, sure. » Alors,
évidemment.
Il l'amène dans une suite de l'hôtel où elle décrit... elle dit, « Une chambre d'hôtel qui faisait trois fois la taille de mon appartement. » où Donald Trump l'a accueillie habillée d'un pyjama en soie ou en satin, elle n'en est pas sûre. Peux-tu imaginer l'image du gros Trump?
Avec les cheveux oranges.
Dans un pyjama de soie ou de satin.
Ben oui, c'est-tu extraordinaire? Il sait recevoir son monde, lui.
Alors, elle a dit que c'était une conversation qu'elle avait eue, c'était une conversation badine. Et Trump lui a raconté que lui et son épouse, Melania, faisaient chambre à part, couchaient pas dans le même lit. Ah! Nouvelle.
Ah.
Alors, et là, il a commencé à lui faire miroiter une apparition dans son émission The Apprentice.
Ah, OK.
Puis il a dit, ben voyons, ils voudront jamais d'avoir une actrice porno dans ça. Il dit, non, moi, je vais t'arranger ça, puis tout ça. Puis là, il est allé à la salle de bain. Non, c'est-à-dire, elle est allée à la salle de bain, et quand elle est sortie, elle a trouvé de Donald flambant nu sur le dos.
Il a enlevé son pyjama en satin.
Ben, ça a de l'air, Elle dit, j'ai senti le sang quitter mes mains et les pieds comme quand on se lève trop vite.
Là, qu'est-ce qu'elle s'attendait quand t'es déjà rentrée dans...
Elle dit qu'elle s'est pas sentie menacée, mais elle dit que les intentions de l'homme d'affaires étaient assez claires.
Mais je pense que quand elle l'a vu en pyjama, quand elle s'est ouvert la porte, c'était assez clair, hein?
Elle dit, mais le rapport de force est un peu déséquilibré. Bon. Alors, le juge...
Fait qu'elle a fait de quoi?
Elle est allée jusqu'au...
Elle s'est exécutée?
Elle s'est exécutée. Elle a fait son devoir.
Le commander-in-chief!
Là, à un moment donné, le juge Merchant a commencé à s'adresser à la procureure de la poursuite, le DPCP, dirait-on ici, ou la couronne, ou je sais pas quoi, pour lui dire, écoutez, je trouve qu'il y a trop de détails, on n'a pas besoin d'entendre ces détails.
Il y en a marre d'imaginer comme nous tous, là, tu sais, un Donald Trump flambant.
Mais il faut savoir aussi que ça se passe en 2006, là, puis que l'élection est en 2016, là, tu sais.
10 ans avant.
En passant, avant de terminer là-dessus...
Il était pas plus cute, le 10 ans avant.
Non, il était pas... Il a maintenu la couleur orange et jaune. Tu sais, jaune.
Il continue à se baigner avec des Cheetos, là.
D'ailleurs, lui a toujours démenti avoir eu cette relation sexuelle. Et à partir de 2018, quand cette histoire de paiement est sortie dans le Wall Street Journal... Il l'appelait, quand il parlait aux journalistes, il l'appelait face de cheval. Stormy. Alors, voilà, face de cheval. Son témoignage se poursuit cet après-midi. Pour te dire, c'est quand j'ai dit loufoque, je veux dire loufoque. Sais-tu quoi, là, je te prédis qu'il va être acquitté. Qu'est-ce que c'est la preuve qu'ils font, là? Ils disent qu'il a payé 130 000 $ que ça a été payé par son avocat Cohen.
C'est la prostituée la plus chère au monde.
C'est pas mal cher, ça. Et qu'il a payé...
Écoute!
Et là, ils sont en train d'essayer de démontrer que, par des falsifications comptables, il a trouvé le 130 000. Ils font témoigner un des comptables de l'entreprise, Trump, qui ne travaille plus là, fait que j'imagine ça y ajoute de la crédibilité. Ouais. Il dit non, il dit on n'a jamais parlé des détails de ça, 130 000 $ là, dans un paquet de chiffres, dans des chiffres comptables, c'est rien ça, puis c'est marqué frais judiciaires, bon, on l'a donné à un avocat, alors j'imagine que ça doit être des frais judiciaires, puis... Alors, conclusion, M. Trump va être acquitté, c'est ma prévision, ma prédiction, et puis... Il va être acquitté, mais entre-temps, ce qu'il essaie à l'heure actuelle, c'est de continuer à contrevenir à l'ordre de se la fermer, imposé par la cour.
Il veut devenir un martyr judiciaire.
Il veut aller en prison.
Ben oui.
Le juge lui a dit hier, si vous continuez à dénigrer ou à parler de telle chose, c'est-à-dire les gens qui participent au procès, les membres du jury, le personnel judiciaire, la prochaine fois, j'aurai plus le choix, il faut que je vous mette en prison. Trump de répondre. Je suis prêt à faire ça pour protéger la Constitution américaine.
La Constitution... Il est rendu défenseur de la Constitution américaine?
Ouais, ben oui, écoute, surtout le premier amendement, le droit à l'expression.
Penses-tu qu'il a parlé avec Stormy de la Constitution? Quand il a invité chez eux? Finalement, alors, cette petite escapade hôtelière lui a coûté plus que 130 000 $.
Ben là, c'est en train certainement de... Il a tellement l'air ridicule dans tout ça, puis tu sais quoi?
Ça plaît aux Américains.
Il monte dans les sondages.
Ben oui! Finalement, c'est un investissement de 130 000. Il devrait c'est arrêter de le mettre des dépenses. Dans c'est un ça, investissement c'est dans un, sa carrière
c'est un
politique.
Un investissement dans sa carrière, grâce à cette Stormy. En tout cas, il va être acquitté. Parce que ça tient pas debout. À chaque jour, j'écoute des experts, tout ça. Ça tient pas debout. Là. Ils ont voulu le pincer dans quelque chose, puis ils seront pas capables de le démontrer. Lui, il dit, mais ses avocats disent qu'il n'y a rien à voir dans le paiement du 130 000. Il l'a certainement autorisé, ou peut-être autorisé, je sais pas, mais il a pas payé ça, puis il a pas fait des accros dans les données comptables. Tellement que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être mis en dedans, c'est son comptable.
Oui. Ben, puis Cohen a déjà fait de la prison là-dessus.
Oui, oui, oui. Alors, c'est comme...
Mais c'est un bon show, Luc.
Ah, c'est un bon show, mais c'est parce que ça me ramène dans les années 90, le procès en destitution de Bill Clinton.
Monica Lewinsky.
Avec Monica Lewinsky, puis y a-t-il une tache de sperme sur le rhum bleu, oui ou non?
Puis le tube de cigare. On est rendu du tube à cigare avec le
pyjama
en
soie.
Le pyjama en
satin. En satin.
Biden, lui?
Ben... Il est vieux.
La petite boîte pilule bleue.
Je pense qu'à son âge, ça marche plus. Lui, ça y prendrait des pilules pour marcher tout court.
Et il a dit, monsieur Biden, on va mettre du Botox.
Hey, c'est madame qui va être contente.
Docteur Jill, il l'appelle docteur parce qu'il met les médicaments.
Un peu plus, puis on va recommencer à parler de Jean-Michel et Brigitte.
Manu, te salue! Déclame-moi.
Bye.
Bye.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Grosse journée aux États-Unis. L'ancienne star porno Stormy Daniels est en train de témoigner actuellement au procès de Donald Trump. Est-ce que ça pourrait amener un tournant à ce procès et surtout à la campagne présidentielle? On pose la question à Maître Olivier Piton, avocat en droit civil aux États-Unis. Bonjour, Maître Piton.
Bonjour.
Quel spectacle? On ne sait pas si c'est un spectacle de télé-réalité, on ne sait pas si c'est une campagne électorale présidentielle ou est-ce que c'est réellement un procès judiciaire en bonne et due forme. Toujours est-il que c'est un peu loufoque comme procès. Quelle est la lecture que vous faites jusqu'à maintenant de ce procès-là?
Alors, vous avez raison d'utiliser le mot loufoque, parce que en fait, on est dans un vrai cirque. D'abord, il faut comprendre que c'est la première fois qu'un ancien président des États-Unis se trouve accusé d'un crime et jugé par une cour pénale. Deuxièmement, comme l'a rappelé votre invité précédent, on parle actuellement, alors du témoignage de Stormy Daniels, des éléments les plus scabreux, les plus croustillants, les plus intimes de leur éventuelle relation sexuelle, puisque Donald Trump continue de la nier. Donc on est dans une situation complètement incroyable où les jurés, il faut se mettre à leur place un moment, qui sont censés juger au-delà du doute raisonnable, c'est ce qu'on leur demande, d'une situation jamais vue dans le passé aux États-Unis et probablement dans la plupart des démocraties, et de devoir faire la part des choses entre d'un côté ce qu'on vient de raconter, c'est-à-dire l'intimité d'une relation entre un ancien président des États-Unis, enfin qui ne l'était pas encore à l'époque, et une actrice porno d'un côté, et puis le fond du dossier. Le fond du dossier, c'est quoi? Est-ce qu'il y a eu violation de la législation sur le financement d'une campagne présidentielle? Et donc on les plaint, parce que c'est particulièrement difficile d'arriver à sortir de ce cirque et de se faire une opinion un tout petit peu objective.
C'est particulier le fait que le jury soit pris dans une histoire, finalement. C'est un procès où on parle d'une question de mœurs, mais qui n'a rien à voir. Il ne s'agit pas ici de juger les mœurs et les activités extra-conjugales du président Trump dans le cadre d'une campagne électorale. Comment, je pense que c'est pas habituel finalement d'avoir des procès avec des prétendants au poste le plus important finalement à travers la planète. Comment des jurés devrais-je dire, peuvent faire la part des choses et que ça ne se transforme pas en un référendum sur la qualité et la capacité à Donald Trump à gouverner?
Je crois que ça n'est malheureusement pas possible. Et on le voit d'ailleurs, puisque au-delà des deux aspects qu'on vient de décrire, c'est-à-dire d'une part le côté scabreux de la description d'une relation sexuelle entre un président en devenir, à l'époque il ne l'est pas encore, et une actrice porno. La mise en place d'un système visant à le protéger, c'est ça aussi qui est au cœur de ce procès, avec derrière une violation possible du financement d'une campagne électorale, ce qui est un crime au regard de l'État de New York, eh bien derrière on a évidemment un agenda politique qui joue, avec un juge, John Merchant, qui essaye de conserver les débats comme il le peut, qui menace Donald Trump de l'emprisonner parce que celui-ci utilise ce procès comme tribune politique. Donc on a une problématique scabreuse, on a un crime qui est en train d'être jugé, on a par-dessus un agenda politique, et cette espèce de canevas général crée une situation complètement incroyable où, pour répondre à votre question, je ne sais pas comment les jurés arrivent à trouver le moyen d'avoir une position objective, ce que je disais tout à l'heure. Comment juger dans une situation aussi loufoque, pour reprendre le mot de tout à l'heure?
J'essaie de me projeter déjà au moment où le jugement sera rendu. On va s'assurer de la paix sociale? Imaginons s'il est rendu coupable et reconnu coupable. Comment le juge peut s'assurer que, en fait, je ne sais pas à quel point il peut le faire, mais peut-il s'assurer que cela n'entache pas la paix sociale lorsque les tensions sont aussi vives?
Vous savez, il l'a lui-même prédit, puisqu'il a dit au moment de la multiplication des insultes de Donald Trump sur ses réseaux sociaux, il a dit « La dernière chose que je veux, c'est vous enfermer. Vous êtes un ancien président des États-Unis, mais je souhaite que les débats se passent correctement. » Et comment vous dire, il y a trois possibilités. La première possibilité, il est acquitté, parce qu'il y a une majorité de jurés qui estiment qu'il n'y a pas de preuves suffisantes au-delà du doute raisonnable qui permettent d'accuser Donald Trump. Et dans ce cas-là, la paix sociale, de fait, elle sera respectée, puisque les deux candidats poursuivront leur campagne jusqu'au 5 novembre. Le deuxième cas de figure, c'est la condamnation, y compris la condamnation à de la prison. Et là, vous avez raison, la paix sociale est en danger, puisqu'on a vu à quelle vitesse Donald Trump a été adoubé par les Républicains, par une primaire républicaine qui a été l'une des plus rapides de l'histoire. Donc il a le soutien des électeurs et du parti, en dépit de quelques dissensions. Donc effectivement, là, la paix sociale sera extrêmement préoccupante et difficile à maintenir. Et puis il y a le cas un peu entre les deux, où en fait, il n'y aura pas vraiment d'unanimité de la part des jurés. On sera dans le cas d'un mistrial, c'est-à-dire concrètement d'une affaire non aboutie. Et on peut estimer là aussi que d'une certaine manière, il y aura la paix sociale. Donc la paix sociale, elle sera maintenue sans doute, sauf dans le cas où Donald Trump serait emprisonné, où là on ne sait pas du tout ce qui pourrait se passer.
Et ça serait très peu probable, parce que c'est sûr qu'il va envoyer, il va faire appel de ce jugement, et on est pris dans encore plusieurs mois de bataille judiciaire. Maître Piton, la question aujourd'hui qui se pose et qui revient beaucoup auprès notamment de ceux qui appuient Donald Trump, c'est de dire qu'il y a de l'acharnement qu'on cherche à tout prix à traduire Donald Trump devant la justice. Si c'est pas l'histoire avec Stormy Daniels, c'est l'histoire des assurances de la Trump Organization. Il y a différents procès, différentes batailles judiciaires qui ne tiennent pas sur grand-chose, à tout le moins qui laissent croire qu'il y a un acharnement. De votre point de vue, est-ce qu'il y a un réel acharnement ou est-ce qu'on a raison de traduire Donald Trump en justice?
Ah, c'est la grande question. La justice est politisée aux États-Unis. Les juges sont élus. Ils font en général partie d'une formation politique, soit démocrate, soit républicain. Donc, l'instrumentalisation, qu'elle soit réelle ou pas, en tout cas, elle est dans l'air, elle est en filigrane. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas politisation de la justice aux États-Unis. Est-ce que pour autant il ne doit pas être poursuivi pour les charges qui pèsent contre lui? Ça, c'est toute la question. Le calendrier aussi est important, c'est-à-dire pourquoi maintenant? Pourquoi à quelques mois de la présidentielle et non pas il y a 2 ans, 3 ans? Et dans le cas de Stormy Daniels, on parle quand même d'une relation sexuelle qui date de 2006, avec un maquillage présumé qui date de 2015-2016. Pourquoi 2024? Et la question, évidemment, comme le disait votre interlocuteur précédent, participe de la popularité de Donald Trump qui, effectivement, continue à monter dans les sondages. Donc la politisation, c'est à chacun son opinion, mais les juges étant effectivement élus, la politisation, elle est de fait.
Vous, vous connaissez bien, évidemment, les États-Unis. Comment on peut expliquer une différence de traitement, que ce soit médiatique ou même d'un point de vue politique? La différence entre l'affaire Lewinsky et l'affaire Donald Trump. Il s'agit de questions de mœurs, des relations extra-conjugales qui sont présumées alléguées, dans le cas de Lewinsky, même reconnues. Pourquoi les femmes qui reprochaient à Hillary Clinton jadis d'être restées avec Bill soutiennent aujourd'hui Donald Trump?
Alors, en fait, je ne vois pas tant de différence que cela. Si vous vous souvenez du contexte avec l'affaire Lewinsky, l'opinion publique américaine avait relativement peu suivi les réquisitoires des républicains tendant à faire condamner Bill Clinton à l'époque. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une relative, je ne vais pas dire mansuétude, mais on considérait que c'était quand même pas à ce point grave et qu'en tout cas, on arrivait à faire la distinction, la fameuse distinction entre l'homme et la fonction. Et avec Donald Trump, c'est en fait ce qui est encore en train de se reproduire, et ça au grand dam des démocrates, c'est-à-dire que on ne lui reproche pas tant que cela sa relation extra-conjugale supposée, hein, il la nie, avec Stormy Daniels. Donc, je pense que l'opinion publique, la société américaine est sans doute plus avancée, plus tolérante, plus, je dirais, plus à l'aise que ce que l'on veut bien dire avec les phrases que des hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, ça n'imprime pas. Il y aura peut-être d'autres affaires qui imprimeront concernant Donald Trump, en particulier l'affaire du Capitole, mais sur cette affaire de Stormy Daniels, comme avec l'affaire de Monica Lewinsky, très honnêtement, on trouve une grosse tolérance de la part de l'opinion publique majoritairement.
Et ça argumente en ce sens, en son sens en fait, lorsqu'il dit qu'il y a de l'acharnement de la part du bras les, finalement judiciaire des tribunaux. Est-ce qu'il va réussir à se placer en martyr si jamais il est arrêté, il est emprisonné, ne serait-ce que par suite aux menaces du juge de cette semaine? Quel est l'impact politique d'un ancien président derrière les barreaux, ne serait-ce que pour quelques heures?
Énorme, sans doute énorme. D'abord, votre interlocuteur a dit une chose très juste, il a rappelé une phrase qu'a dit Donald Trump, il a dit « la Constitution est au-dessus de tout ». Et la Constitution, le premier amendement, la liberté d'expression, c'est-à-dire « je ne me tairai pas et je continuerai à défendre mon droit à m'exprimer ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se met déjà en situation peut-être d'être incarcéré, de se retrouver en prison, il se prépare, et il prépare son électorat à cette éventualité. Donc, la conflagration serait absolument énorme. Il est en tête, légèrement, mais il est en tête dans les sondages. Il a été adoubé par les Républicains. On est à 5-6 mois de la campagne présidentielle. Si jamais il devait être incarcéré, et c'est ce que le juge à la Cour suprême de New York, John Merchant, veut absolument éviter, et il a bien compris le piège, c'est justement de trouver la petite voie étroite qui permettrait de ne pas obliger le juge à l'incarcérer, mais rien ne dit qu'il pourra y arriver.
Ça reste à suivre parce que cette histoire-là n'est pas terminée et on dirait qu'on est dans un procès de réchauffement pour tous ceux qu'on va devoir suivre au courant des prochains mois, prochaines années, parce qu'il en a plusieurs auprès desquels il va devoir se défendre. Maître Olivier Piton, avocat en droit civil aux États-Unis, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Au revoir.
Une femme brillante pour un éclairage sur l'actualité. Yasmine Abdel-Fadel.
L'armée israélienne a annoncé avoir pris le contrôle du point de passage de Rafah du côté palestinien situé entre la bande de Gaza et l'Égypte. On fait le point de cette opération d'envergure et de la situation entre Israël et le Hamas qui continue de s'envenimer avec Ferry de Kerckhove, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. Monsieur de Kerckhove, bonjour.
Bonjour Yasmine, comment ça va?
Ça va très bien. Quand même, les images que l'on voit à Rafah, à Gaza, sont inquiétantes. Israël n'a visiblement pas écouté ses alliés au plus haut chef, les États-Unis, lui disant de ne pas aller à Rafah.
Premièrement, Netanyahu n'écoute jamais qui que ce soit. La seule chose qui l'intéresse, c'est de garder le pouvoir. Or, comme vous le savez, avec Smotrich et Ben-Gvir, les fascistes de son gouvernement, eux, ils avaient carrément dit à Netanyahu, si tu veux continuer à être à la tête du gouvernement, il faut que tu déboules le Rafah. C'est essentiellement ce qu'il a fait. Alors avec ça, il y a eu l'imbroglio un peu compliqué, la confusion qui d'après moi était passablement délibérée pour mettre en doute un peu le Hamas qui estimait qu'ils allaient accepter un plan qui n'était pas très très différent de celui qui avait été proposé au départ ou entériné en tout cas par Blinken et puis ensuite. Alors il y a visiblement, l'idée fondamentale dans cette affaire, c'est que Netanyahu voulait avant tout rentrer dans Rafah pour en découdre une fois de plus avec le Hamas dans cette région surpeuplée et déjà martyrisée, avec en plus évidemment la possibilité de s'installer, parce que c'est vraiment s'installer dans le corridor qui est entre Gaza et l'Égypte et qui a d'ailleurs suscité déjà une réaction assez virulente de la part de l'Égypte en disant que ça mine même les accords qui remontent à plusieurs années entre l'Égypte et Israël quand ils ont conclu tous leurs traités de paix, etc. Alors, la situation est loin d'être facile.
Ce qui veut dire qu'Israël cherche finalement à agir comme une zone de tampon, ne pas permettre finalement un échange naturel entre Gaza et l'Égypte et s'installer entre les deux territoires. Est-ce que vous pensez qu'Israël va finir par se retirer de ce territoire éventuellement?
C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par dire qu'Israël veut reconquérir la totalité de Gaza et trouver une façon de se débarrasser des Gazouis qui y restent. Le plan est très clair. En ce qui concerne cette bande qui fait à peine quoi une quinzaine ou une trentaine de mètres de largeur tout du long, l'idée, c'est pas tellement de récupérer ça, c'est de s'y installer, alors que les accords entre l'Égypte et Israël disent que c'est une zone no man's land à toute fin pratique, et donc c'est pour ça que les Égyptiens et d'autres, j'espère, vont s'insurger contre ça, parce que c'est un des éléments fondamentaux qui a mené, comme vous le savez, à la création du MFO, Multiple Force Observer, dans le Sinaï, que j'ai visité moi-même parce qu'il y avait un contingent canadien quand j'étais ambassadeur. Alors, si vous voulez, c'est vraiment un encrochement sur les accords et les traités. Alors, c'est pour ça que tout ça est extrêmement difficile. L'histoire de l'acceptation de Hamas ou la non-acceptation, parce que ça correspondait pas exactement au petit plan du père Netanyahou, faut pas charrier. Il y avait peut-être des virgules ici et là, mais le fond de l'accord restait le même. Bon. C'est clair que c'était pas une fin de conflit, c'était une trêve, parce que Netanyahu ne pourrait pas accepter un cessez-le-feu pour des raisons politiques intérieures, parce que s'il accepte un cessez-le-feu, à ce moment-là, il n'y a pas de combat, et donc il peut recommencer à être traduit en justice. Alors, tout ça est un petit peu mélangé, et malheureusement, ce sont les pauvres Gazouis qui en souffrent de plus en plus, et on a vu ça d'ailleurs déjà dans les bombardements depuis ce matin.
On voit cette offensive à Rafah, mais on voit aussi un silence un peu gêné des États-Unis. D'ailleurs, on apprenait dans le Wall Street Journal que les États-Unis ont retardé la livraison de certains matériels, du matériel militaire, notamment des bombes à guidage. Et on voit aussi ce qui se passe dans les campus américains. Est-ce que Joe Biden est pris entre le marteau et l'enclume et ne sait plus à quel sens se vouer?
Je vous dirais de façon légèrement différente que comme Biden ne réussit pas à imposer le moindrement son point de vue à Netanyahou, qui se rit de lui, avec l'impact politique que cela donne dans la rue des États-Unis, on l'a vu, la situation de Biden était plutôt fragilisée par ce conflit et par l'attitude d'Israël. Or, vous remarquez que l'Arabie saoudite a commencé à parler de génocide, ce qui était la première fois qu'il en était question. D'un autre côté, est-ce que en termes d'approvisionnement, parce qu'avec la bataille de Rafah, vous n'avez plus de camions qui rentrent là-dedans, donc la famine va augmenter, sauf que les Américains soutiennent que le ponton qu'ils sont en train de créer sur le bord de la rive de la mer va réussir à faire entrer plus que les 200 camions. Avant que tout ça ne soit opéré, laissez-moi dire qu'il y aura encore énormément de victimes. Alors, si vous voulez, pour approfondir sur votre question, Biden est terriblement fragilisé, d'autant plus qu'il soutient Israël, contre lequel le monde se tourne de plus en plus de façon très très négative. Alors, il y a rien de très évident pour eux, et je ne sais pas dans quelle mesure, sur le plan politique, M. Biden va s'en sortir. Et vous avez d'un autre côté Trump, qui heureusement fait face à cette espèce de procès absolument ahurissant, oui, à New York, ce qui fait que les deux prétendants à la couronne américaine sont tous les deux dans le pétrin, sauf que je crois qu'en ressortant de là, Trump sera peut-être en meilleure posture que Biden, parce que Biden a quand même perdu un grand nombre de son électorat qui, comme on l'a vu lors des primaires, avait dit no name, c'est-à-dire personne plutôt que de voter en faveur de Biden. Donc la situation est passablement difficile, et sur le plan militaire, là encore, compte tenu de la densité de la population, les deux brigades israéliennes qui sont rentrées dedans, essayer de faire sortir la population dans ces conditions-là pour aller d'une zone dangereuse à une zone affamée, il n'y a pas beaucoup à se féliciter de ce qui se passe.
Il y a ces rumeurs quant à un éventuel mandat d'arrestation envers Benjamin Netanyahou. On en est rendu où dans cette histoire? Est-ce que c'est crédible tant qu'à vous?
C'est-à-dire que vous aviez la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice, vous avez ces différentes instances, et on sait que, par exemple, le père Poutine ne peut pas se balader partout parce que lui, il a été intenté dans ce domaine-là, quoique Poutine s'en fout comme de l'an 40. Je ne pense pas que ça va aboutir parce que, d'une manière ou d'une autre, je ne crois pas que la décision sera définitive et empêchera Netanyahu de se balader. Les Américains feront tout ce qu'il faut pour éviter que ça ne se produise. Mais c'est quand même assez énorme de voir que le chef de la démocratie israélienne se retrouve en butte contre la cour, les différentes cours, notamment la Cour pénale internationale. Mais de toute façon, comme Israël n'a pas entériné la Cour pénale internationale, ce serait difficile de le traduire en justice.
Israël et le gouvernement Netanyahou, dans une décision unanime, ont finalement mis fin aux activités d'Al Jazeera en Israël et finalement ont tout saisi, tout matériel informatique. Qu'est-ce que ça dit sur le régime de Netanyahou, cette décision-là?
Ça veut dire qu'il y a différentes définitions de la liberté de la presse. La presse qui vous ennuie, vous la faites taire, et la presse qui vous convient ou qui n'est pas trop dure avec vous, vous la laissez parler. Et vous savez, c'est pas seulement ça qui est terrible. C'est le nombre de journalistes qui ont été tués pendant cette guerre-là, notamment un très grand nombre d'Al Jazeera. Alors c'est vraiment, j'allais dire que c'était la prune sur le Sunday, mais négative. C'est vraiment assez épouvantable parce que c'est vrai que Al Jazeera en anglais est plus tame et plus modéré, Al Jazeera en arabe est beaucoup plus virulent, mais ça ne change rien. L'effet que Al Jazeera dénonce par leurs journalistes, elle est simplement réelle et fondamentale.
C'est assez particulier comme histoire, cette guerre-là. Est-ce que vous voyez une fin de cette guerre-là quelque part dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que chaque minute qui passe, ce sont des enfants qui meurent affamés, assoiffés, bombardés. Quand est-ce qu'on pourra se dire c'est assez de sang à couler de part et d'autre?
Je vous dirais qu'à court terme, je n'ai absolument aucun espoir positif. Cela dit, le 9 octobre, donc dans les deux jours qui ont suivi l'attaque d'Hamas dans les kibbutz, j'avais dit c'est une telle horreur que peut-être de là émergera un consensus, une espèce d'unanimité pour créer un État palestinien vivant côte à côte avec Israël en paix et en sécurité. Je sais que je crois que je n'avais pourtant pas bu de champagne quand j'avais dit ça, mais j'ai l'impression qu'on est terriblement loin. Mais quand même, il va y avoir un moment donné où ça va cesser. À quel moment Netanyahou va dire bon, là j'ai vraiment décousu tout le Hamas et donc on peut repartir à zéro. Mais repartir à zéro, vu sous l'angle israélien, c'est la réoccupation complète de Gaza. Et comme vous le savez, il y a déjà des entrepreneurs de Tel Aviv qui offrent de la vente de terrain le long de la Méditerranée de Gaza. Alors, c'est vous dire que l'esprit n'est certainement pas à la réconciliation. Alors, c'est ça qui est le plus terrible, c'est qu'au fond, c'est pas seulement Gaza, c'est en Cisjordanie où il y a eu près de 500 victimes d'agressions diverses des colons ou encore des soldats de Ben-Gvir. Alors, nous sommes dans une situation désespérée parce que les États-Unis n'ont plus aucune influence sur, au fond, les décisions de Netanyahou. On peut espérer peut-être qu'un jour Netanyahou sera viré à cause de l'enquête qui se fait sur, au fond, l'insécurité israélienne qui a mené à la facilité de l'attaque malheureuse du Hamas. Est-ce que c'est Benny Gantz qui va prendre le pouvoir? Ouais. Est-ce qu'il va y avoir un changement? Mais quand vous regardez les positions de chacun de ces personnalité politique israélienne, il n'y en a plus un seul qui parle de deux États vivant côte à côte. Alors, on continue, que ce soit le conflit de Gaza aujourd'hui ou l'expansion de la colonisation, quelle que soit la démarche ou les horreurs qui se passeront, il n'y a pas de progrès sur la solution fondamentale qui est la création de l'État palestinien que l'on attend depuis 76 ans.
Avant de vous laisser, M. de Kerckhoff, quel va être l'impact des derniers mois sur les fameux accords d'Abraham qui étaient déjà signés avec les Émirats et qui s'apprêtaient oui. avec le Maroc également? Mais avec l'Arabie saoudite, on était presque à la signature de l'accord. Est-ce qu'il y aura encore des accords d'Abraham au lendemain de cette guerre?
Alors, la question que moi je me pose dans la même ligne que vous, c'est-à-dire que est-ce que, disons qu'il y ait tout à coup une espèce d'au moins de cessez-le-feu, une paix quelconque ou quoi, est-ce que les Saoudiens vont être suffisamment forts face à, au fond, le délitement dans la région pour dire aux Israéliens, écoutez, là maintenant, vous avez vaincu le Hamas, faisons le pas essentiel de la création d'un État palestinien. Le problème, et il faut être quand même franc, c'est que c'est certain que les pays arabes défendent la cause palestinienne, mais ils ont quand même des intérêts qui transcendent depuis quelques années la volonté d'aider les Palestiniens pour leurs propres intérêts économiques, sociaux et politiques et autres. Or, il est indéniable, parce qu'il faut jamais, il faut pas tout le temps blâmer Israël pour certaines choses. Israël, sur le plan technologique, économique, culturel et autres, est véritablement un moteur qui pourrait servir admirablement l'ensemble des pays arabes et Israël même elle-même, parce que c'est quand même, comme je le dis toujours, le pays qui a le plus de prix Nobel par pied carré ou par kilomètre carré. Si on n'avait pas Netanyahou, si on n'avait pas le problème palestinien non résolu en faveur des Palestiniens, nous aurions une situation dans le Moyen-Orient qui serait extraordinaire et on accepterait enfin réellement la création de l'État israélien, pour lequel il y a quand même encore certains pays qui ont des réticences, bien qu'ils ne le disent pas ouvertement. Or, il n'y a rien à faire. Israël est dans la région, elle peut être un moteur de l'activité économique, scientifique et culturelle, et pour l'instant, elle est un moteur, malheureusement, de la déconvenue totale. Et c'est là que c'est difficile à comprendre qu'il n'y ait pas un véritable ressourcement du côté israélien. Mais tant qu'on aura des Netanyahou, des Ben-Gvir, des Smotrich et des gens comme ça, on n'aura jamais, jamais un État palestinien. Parce qu'au fond, même si 25% ou 30% de la population israélienne est totalement favorable à la création d'un État palestinien, ceux-là ne sont plus au pouvoir depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Et c'est ça le drame aussi. Alors, on se croise les bras, les doigts.
On va se croiser les doigts, les bras et tout ce qu'on a pour que cesse enfin la guerre, que cesse enfin les meurtres et la peur tant des Israéliens que des Palestiniens pour leur sécurité, absolument, pour leur intégrité, absolument, et la peur des otages qui sont toujours pris à Gaza. Il faut continuer de le rappeler. Ferry de Kerckhoff, ancien ambassadeur du Canada en Égypte, en Indonésie et ex-haut-commissaire au Pakistan. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Avec plaisir. À la prochaine.
Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
Je vous fais une confession, je suis vraiment pas cool. Je suis vraiment pas à la page. Je connais pas la moitié des chanteurs qui sont bien populaires, si c'est pas 90% des chanteurs bien populaires. Mais aujourd'hui, on me dit qu'il y a une alerte bisbille parce que, à ce qui paraît, il y a deux rappeurs, Drake et Kendrick Lamar, j'ai eu son nom correctement, qui chicanent entre eux depuis un bon petit bout. Et moi, j'y comprends rien de ces chicanes-là entre rappeurs. Puis si vous êtes comme moi, ben heureusement qu'on a Félix Desjardins du Journal de Montréal qui va tout nous expliquer ça puis faire notre éducation sur les chicanes des rappeurs. Félix, qu'est-ce qui se passe avec Drake puis, comment il s'appelle, Kendrick Lamar?
Écoutez, ça date pas d'hier, leur relation, et ça date pas d'hier non plus les diss tracks, comme on appelle ces chansons qui sont destinées à miner la crédibilité d'un adversaire de rap. Là, on le voyait à la fin des années 90 déjà. En ce moment, ils sont dans une guerre de mots qui a un peu dérapé. Ça commençait un petit peu avec des remarques, par exemple, de Drake qui se moquait de la taille de Kendrick Lamar, qui est plutôt petit. Ça commençait très doucement, jusqu'à ce qu'il y ait des chansons où les deux allèguent vraiment des graves accusations, là, de pédophilie, d'agression sexuelle, d'infidélité, de violence conjugale. Ça a vraiment dérapé, là.
Et là, on a appris que Drake, il y a eu une fusillade aux abords de sa maison à Toronto. Est-ce que c'est lié à ce monsieur, charmant monsieur Lamar?
Non, mais il n'y a aucune... La police de Toronto a vraiment dit qu'il n'y a aucun lien qui est fait présentement. Drake, il y a beaucoup d'adversaires, de gens qui ne l'aiment pas en ce moment, mais il n'y a rien qui laisse présager que c'est lié au conflit avec Kendrick Lamar. Faut pas sauter aux conclusions. C'est cette nuit, là, vers 2 heures du matin, qu'il y a eu des coups de feu qui ont été entendus près du manoir de Drake à Bridal Path, qui est un des quartiers les plus riches à Toronto. Et c'est un de ses gardes de sécurité qui a été touché, donc sa vie n'est pas en danger. Mais on n'a aucune information sur les suspects à l'heure actuelle et il ne faut pas tracer de dangereux liens avec Kendrick Lamar pour l'instant.
Mais Kendrick Lamar puis Drake, c'était pas des amis avant?
Oui, c'était des collaborateurs. Donc en 2012, ils ont commencé, ils ont même fait une tournée ensemble alors que Kendrick Lamar était encore un rappeur qui essayait de se faire plus connaître. Mais avec les années, leur collaboration s'est effritée, un petit peu leur chimie aussi. Et ils ont commencé les deux à laisser sous-entendre qu'ils n'étaient pas vraiment sur la même page. Et vous savez, le hip-hop, on dit souvent, c'est un sport compétitif. Donc, Kendrick Lamar, en mars dernier, il a sorti une chanson avec un autre rappeur qui s'appelle Future. Et sur celle-ci, ben Kendrick, il disait que le trône lui appartenait, dans le fond, là, que c'était le meilleur rappeur, il envoyait des petites flèches à gauche et à droite, mais rien de trop sérieux, mais M. Drake n'a vraiment pas digéré ça. Et après ça, depuis ce moment-là, ben il y a eu 8 chansons qui ont été sorties de part et d'autre, donc vraiment des chansons sorties à des moments aléatoires, là, au milieu de la soirée, qui vraiment, ils s'attaquent les uns les autres, là. C'est devenu vraiment plus grave que ce ne l'était au début.
J'ai l'impression que c'est une cour d'école. C'est comme « moi, je suis meilleur rappeur que toi ». Ça ressemble-tu à ça?
Ça ressemble à ça au début, mais faut dire que ça pouvait être vu aussi comme une stratégie de marketing même. Parce
ouais,
que
c'est ça.
Kendrick Lamar, je pense qu'il n'a jamais été autant écouté sur Spotify, même si c'est un artiste dont la réputation est déjà vraiment établie. Là. C'est un des artistes les plus écoutés au monde. En ce moment, il y a tellement de gens qui l'écoutent. Tous ses albums reviennent dans le palmarès, le Billboard. C'est la même chose pour Drake, qui est un artiste qui n'a pas besoin de tactique de marketing, mais il continue de s'attaquer parce que ben, c'est vraiment le sujet de l'heure en ce moment. Et si un d'eux prévoit sortir un album dans les prochains mois, évidemment, ben, ils ont tout avantage à étirer ça au maximum.
Est-ce qu'on en voit beaucoup de ces chicanes-là un peu partout dans le showbiz, notamment américain, ou est-ce que ça sort de l'ordinaire?
Ben écoutez, dans le rap, c'est arrivé dans le passé. On a eu le classique Tupac Shakur avec The Notorious Big à la fin des années 90. Ça s'est terminé vraiment de façon tragique avec l'assassinat
de Tupac.
Un peu suspect des. Oui, exactement. Plus tard, on a aussi eu Jay-Z et Nas, deux grands rappeurs aussi dans les meilleurs de tous les temps, les plus réputés, qui se sont aussi affrontés. C'est un peu dans la culture du rap de vraiment rabaisser les autres pour se remonter. Mais récemment, il n'y avait pas eu beaucoup de bisbilles autant importantes, justement. Ce conflit-là, il est sur toutes les lèvres en ce moment. Sur les réseaux sociaux, on n'entend parler que de ça présentement parce que ben, c'est vraiment entre les deux plus gros artistes du rap en ce moment.
C'est un peu, moi je trouve ça assez particulier là, t'sais, que des artistes là, qui me semblent ont d'autres choses à faire que d'entretenir une chicane par réseaux sociaux interposés, là, maintiennent ça. Là. Moi, je ne crois pas à l'innocence de ça. Là. Pour moi, c'est une un plan de marketing bien ficelé qui fait vendre les chansons des uns et des autres et tout le monde sort gagnant de là et qui sont en train probablement de se prendre une bière ensemble dans un sous-sol près de chez vous, là?
Ça, j'en doute. L'aspect marketing, ça fait aucun doute, là. Vraiment, c'est sûr que ça les aide d'un point de vue marketing. Par contre, on a toutes les raisons de croire qu'ils se détestent vraiment les uns les autres. Et Kendrick reproche souvent à Drake d'instrumentaliser la culture afro-américaine. On sait que Drake, il est afro-américain lui-même, là. Sa mère est blanche, mais...
Drake est pas canadien?
Oui, il est canadien. J'ai dit afro-américain, plutôt afro-canadien. Mais Kendrick lui reproche souvent d'utiliser seulement la culture noire quand ça l'intéresse et de plaire à son public plus blanc quand ça l'avantage davantage. Donc, c'est un des aspects sur lesquels il s'attaque, mais il y a aussi plusieurs allégations sur comme quoi Drake aime les filles plutôt jeunes. Encore là, est-ce que ça a été corroboré? Pas vraiment.
Mais d'où vient cette rumeur-là, d'ailleurs?
Écoutez, ça a commencé, ça a vraiment pris de l'ampleur parce que Drake a une relation amicale avec Millie Bobby Brown, l'actrice de Stranger Things, alors qu'elle était mineure encore. Oui, exactement. Il s'est changé des messages, rien, vraiment innocent, mais évidemment, ça a soulevé certains doutes parce que quand un rappeur de 30 ans discute en message privé sur Instagram avec une actrice qui en avait peut-être 15-16 à l'époque, ça a tiré certains soupçons, disons. Fait que leur conflit peut paraître un peu superficiel, mais on a toutes les raisons de croire qu'ils se détestent vraiment les uns les autres parce qu'en ce moment, ils n'essayent pas de s'entraider, là.
C'est assez particulier parce que Eleven, tu sais, pour moi, ça reste une petite fille, une jeune préadolescente ou presque de Stranger Things et je vois pas le rapport avec Drake. Est-ce qu'il est encore bien présent, disons, à Toronto dans le marché, notamment immobilier à Toronto? Est-ce qu'il est plus... Tu sais, on a vu un Justin Bieber être beaucoup plus présent aux États-Unis qu'au Canada. Est-ce que Drake, c'est la même chose?
Drake est présent pas mal partout, là, parce que c'est vraiment, je sais pas si dans la hiérarchie mondiale, les artistes, on pourrait dire Drake, parce qu'il sort autant de musique populaire que de musique rap. Il est tellement populaire qu'il est un peu partout. Il y a des maisons un peu partout. Il reste intimement lié à Toronto toujours. Il en fait souvent référence, mais il ne passe pas la majorité de son année là, je pense pas, là, non.
Ah ben oui, quand on a beaucoup d'argent et qu'on vole en jet privé, qu'on est riche et que finalement il n'y a pas grand chose qui nous retient, le monde est notre maison, le monde fait en sorte qu'on peut vivre un peu partout, dans n'importe quel hôtel, dans n'importe quelle maison. Félix Desjardins, journaliste culturel au Journal de Montréal, merci pour ce cours 101 de Drake et de Kendrick Lamar. Regarde, je vais finir par l'avoir.
Merci.
Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine Abdel-Fadel.
Je retrouve Mélina Funk pour parler du Met et les robes d'hier soir. Assez particulier, comment le monde s'habille à ce gala-là.
Oui, Yasmine. Alors justement, sur les réseaux sociaux, il y a eu pas mal de parallèles qui ont été faits un petit peu avec Hunger Games, les films, les jeux de la faim. Ouais. Parce qu'il y a ce côté toujours un petit peu extravagant. Hier, le thème, c'était Sleeping Beauties, Reawakening Fashion. Et puis, c'était aussi The Garden of Time. Donc, on a vu beaucoup de fleurs. On a vu aussi beaucoup de tenues qui sont sorties des archives des grands créateurs. Donc, c'était un petit peu, oui, ce mélange. C'était très éthériel. Il y avait beaucoup de fées. Il y avait beaucoup de petits reflets.
C'était aussi bizarre. Je voyais Lana Del Rey, là, elle portait littéralement un arbre sur elle. Là. Il y avait des branches qui sortaient de partout.
Oui, c'est un look McQueen assez rétro. Donc, justement, on a vu un petit peu des grands classiques de certains designers qui ont été remis un petit peu au goût du jour. Et puis, effectivement, ce côté Hunger Games qui était aussi souligné sur les réseaux sociaux par rapport au fait qu'hier, au même moment, il y avait une attaque d'Israël sur Rafah, donc un des derniers bastions de la résistance palestinienne, si on peut dire ça comme ça. Donc il y avait un petit peu ce parallèle d'un côté où tous les regards étaient tournés aux États-Unis sur les starlettes d'Hollywood, les chanteurs, les musiciens, et d'un autre côté on avait cet événement,
la richesse du monde et le désespoir humain le plus total. Il y a aussi cette controverse quant à la taille de Kim Kardashian, qui fait toute la grosseur de mes deux Elle s'est fait enlever des côtes. Comment elle a fait ça? Parce que moi, je veux avoir son secret. Là. C'est quoi qu'elle a bu? Là, si tu, qu'on vienne pas me dire le vinaigre de cycle de pomme, là, ça marche pas cette affaire-là, je l'ai essayé.
C'est vrai que Kim Kardashian, chaque année, elle fait parler avec son corps. Hein, c'est quand même assez malade. L'année dernière, elle avait perdu des dizaines de kilos pour pouvoir rentrer dans la robe de Marilyn Monroe.
Oui.
Cette année, on la voit avec une taille rikiki, qui, je pense, est due à un bon corset bien solide. Et puis, on l'a vu aussi avec un petit châle sur les épaules. Je sais pas si t'as vu ça. Alors, on sait pas trop si c'était fait exprès, parce qu'il y a des théories comme quoi c'était pour faire, oui, qu'elle vient de se réveiller du lit, parce que le thème, c'est Sleeping Beauties. Donc, voilà. Ou si elle a eu un petit dysfonctionnement de robe et qu'elle a dû cacher ça au dernier moment. Parce que c'est ce qui s'était passé l'année dernière avec la robe de Marilyn Monroe. Ça s'était déchiré derrière, parce que malgré le poids qu'elle avait perdu, bah, elle rentrait toujours pas dans la robe. Donc, elle a dû mettre, hop, un petit châle sur les épaules pour cacher la fissure de derrière. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Est-ce que c'est de nouveau le cas cette année? Bon, pour l'instant, on ne sait pas trop.
Mais on sait qu'elle a un petit elle a un corset, un méchant corset.
Oh
là.
Oui!
Elle porte pas les Skims là, qu'elle vend ici. Là. C'est pas les Skims sûr. Qu'elle nous vend, nous, là, qu'on va acheter ça à coup de centaines de dollars. Là. Elle a quelque chose de plus sérieux que ça, là, parce que ça n'a aucune allure
Mais
d'avoir
oui.
des hanches aussi énormes. Et à rien manger depuis 15 jours, là, c'est sûr.
Oui, c'est clair. Et puis, on se dit, vraiment, les célébrités, elles vont à certaines mesures pour pouvoir rentrer dans leur robe. Parce que, par exemple, il y avait la chanteuse Tayla, qui vient d'Afrique du Sud,
oui.
qui avait une robe tellement serrée, elle était habillée un peu comme du sable. Elle était habillée en sable, je sais pas comment te le dire autrement, en sablier. Et puis, pour monter les marches, en fait, du Met Gala, elle a dû être portée.
Levée
comme ça. Ouais, oui, levée comme par ses assistants. Oui, exactement. Elle pouvait pas en fait plier les genoux, elle pouvait pas s'asseoir. Alors on se pose la question parce qu'en fait, une fois que les célébrités ont fini de monter ces escaliers du Met Gala où on voit toutes les photos, le tapis rouge, etc. En fait, ils entrent dans une salle pour faire un dîner parce qu'à la base le Met Gala c'est ça, c'est un gala de charité qui va en fait les personnalités qui sont invitées, elles payent un certain montant pour pouvoir accéder au gala et ensuite ce montant il est reversé au musée de la mode de New York. Donc en fait le fond, c'est un dîner. Mais comment est-ce qu'elles font pour s'asseoir, pour manger?
C'est sûr qu'elles ne mangent pas, là?
Mais non!
Ouais, c'est sûr que Kim Kardashian n'a pas mangé. Si elle avait mangé, ne serait-ce qu'une bouchée, on l'aurait vu sortir de
Mais
son ventre.
C'est sûr, c'est sûr. C'est pour ça qu'il y a certaines stars qui optent pour des tenues un petit peu plus décontractées, comme Doja Cat, qui est venue avec juste un t-shirt mouillé.
Beaucoup moins compliqué. Pour manger, tu sais. On
beaucoup
a vu aussi Sarah Jessica Parker, l'héroïne dans Sex and the City. Qui
oui.
était avec une robe, disons, elle pouvait manger, il n'y avait pas de problème, là, il y avait un gros...
c'est ça.
Il y avait de l'espace.
Ben oui, ben, y a beaucoup de célébrités qui viennent un petit peu cacher leur baby bum quand elles sont enceintes, tu sais. Parfois, elles veulent le cacher un petit peu, alors elles jugent de ce genre de stratagème, donc forcément, ça doit aussi marcher avec les bébés de nourriture, là, une fois que tu as bien mangé.
Moi, je n'ai pas reçu d'invitation, toi, tu n'en as pas reçu une?
Non, non pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, mais à ce moment-là, ils n'ont pas le droit de cellulaire?
Ah.
À l'intérieur du dîner, donc ils peuvent pas se prendre en photo. C'est pour ça qu'on voit jamais de selfie du Met Gala. Les seules photos sont celles sur le tapis rouge. Ça crée finalement une sorte de réputation d'un gala qui est mythique et quand on reçoit l'invitation, bon, on y va.
Ben oui, c'est un peu le Super Bowl des jolies filles.
Le Super Bowl des jolies filles, le Super Bowl des robes bizarres. Et même des hommes, là, ils portaient des... Il y en a un, on dirait, qui est sorti avec... qui était chez son tailleur, puis qui n'a pas fini son costume, puis qui est sorti avec, je me rappelle plus, je connais pas leur nom.
Oui, c'est Bad Bunny, le rappeur espagnol.
Je te crois sur parole.
Qui nous a fait ça. Mais au moins, il a essayé, parce qu'il avait un peu des fleurs sur son costume. Alors
c'est
qu'on
vrai.
Peut se le dire, les hommes au Met Gala, souvent... Ça pêche. Au moins, les femmes, même si c'est pas toujours joli, elles essayent, alors que les hommes, c'est souvent juste un tuxedo noir et puis c'est leur femme qui sert d'accessoire.
C'est
bien dommage.
Mais c'est souvent ça. On le voit aussi dans les Oscars, les femmes qui, pauvres elles, on va leur dire ah, qui vous a habillé aujourd'hui, qui vous a coiffé, qui vous a quel bijou. Puis les hommes, c'est votre femme est où?
Oui, c'est ça.
Merci beaucoup. Merci pour cette revue vestimentaire du Met Gala et de cette ambiance. J'ai hâte qu'un jour on m'invite. Là, je vais aller essayer de me trouver un corset parce que visiblement, c'est obligatoire. Mm-hmm. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde, aux invités et aux chroniqueurs. Je vous retrouve pour ma part très bientôt pour un autre épisode sur Cube.